IDFM 98 FM.
Bonjour à tous, vous êtes sur IDFM Radio 98 FM, il est 18h et c'est l'émission Entre Chien et Loup qui commence. Je suis Ishtar Mathieu-Sechaise, percussionniste de formation et aujourd'hui musicologue conférencière et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau programme consacré aux fondamentaux de la musique et plus particulièrement aux tubes de la musique. On se retrouve les 1er et 4e mardis du mois de 18h à 19h, donc sur IDFM Radio 98 FM, IDFM, la première radio du Val-d'Oise. Et nous allons commencer le programme du jour avec la France et plus particulièrement le compositeur Maurice Ravel. Il était né en 1875, l'année de la création de l'opéra de Georges Bizet, Carmen, et il est décédé en 1937. Parmi ses œuvres les plus célèbres, ou si ce n'est la plus célèbre parmi les œuvres de musique classique, il y a bien sûr son fameux boléro que nous avons vu ensemble déjà dans une émission consacrée aux tubes de la musique classique. Et dans cette œuvre, on retrouve particulièrement l'ostinato, donc joué tout du long par la caisse claire. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une autre œuvre connue du compositeur. Il s'agit de la musique, de l'œuvre qui s'appelle La pavane pour une infante défunte. Il faut savoir qu'à l'origine, il avait écrit cette œuvre pour piano et il l'a ensuite orchestrée. Orchestré lui-même, et oui, et c'est arrivé à plusieurs reprises que Maurice Ravel fasse cela. Et je rappelle qu'il a orchestré l'œuvre initialement pour piano, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski. Donc c'était un habitué de l'orchestration et il le faisait y compris donc pour lui-même. On écoute donc cette pavane. La pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, compositeur français de la toute fin 19e et le début du 20e siècle. Je vous propose maintenant d'écouter la version orchestrale faite par ce même compositeur et c'est le magnifique son du cor, donc qui est un instrument qui fait partie des cuivres, qui fait la mélodie principale.
Thank you.
IDFM, dans l'émission Entre chien et loup, nous venons d'entendre deux versions de la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. La version originale pour piano et ensuite la version orchestrale. Cette pavane est censée évoquer la danse d'une infante à la cour d'Espagne. Je cite, une pavane qu'aurait pu danser telle petite princesse jadis à la cour d'Espagne. C'est ainsi que Maurice Ravel a imaginé. Pensez son morceau, la pavane étant une danse lente et élégante. De la France de Maurice Ravel, nous passons à l'Allemagne de Ludwig van Beethoven, compositeur qui était né en 1770 et qui est décédé en 1827. On lui doit ô combien d'œuvres majeures de la musique classique, notamment avec ses 9 symphonies qui sont vraiment littéralement un monument de la musique classique, ces 32 sonates pour piano qui sont également un monument, hein, c'était un ensemble d'œuvres qui a été appelé le Nouveau Testament de la musique, l'ancien étant le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, également allemand, mais qui appartenait à l'époque baroque. De Ludwig van Beethoven, nous allons écouter la lettre à Élise, qui est un de ses tubes, et c'est un des tubes de la musique pour piano. Cette œuvre a été écrite en 1810 et fait partie des morceaux que l'on appelle des bagatelles. Ce sont des petits morceaux, pas très longs, sans aucune prétention artistique majeure. Et il est intéressant de noter que c'est une des œuvres qui soit sans numéro d'opus dans le catalogue de Beethoven. Il y a ses plus grandes œuvres, bien évidemment, ont un numéro d'opus, un numéro d'œuvre pour savoir de quelle œuvre il s'agit, dans quelle chronologie ça a été écrit et où, dans quelle chronologie ça a été publié. Mais il y a quelques morceaux chez Beethoven, il y a beaucoup de ses œuvres de jeunesse qui sont dans ce cas, qui n'ont pas de numéro. Donc dans ces cas-là, vous voyez W-O-O avant le numéro, puisque finalement on a fini par faire un catalogue avec les œuvres sans opus. Dans le catalogue donc de Beethoven, c'est Werk ohne Opus, donc W-O-O, œuvre sans opus. On écoute donc cette bagatelle. C'était Beethoven, et plus particulièrement la lettre à Élise que nous venons d'écouter sur IDFM Radio dans l'émission Entre chien et loup. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, je suis musicologue conférencière et j'ai à cœur de partager toujours à mon public le savoir musical de la façon la plus simple et la plus directe possible, et c'est ce que je fais également auprès de vous avec l'émission donc Entre chien et loup, les premiers et quatrièmes mardis du mois. Je mentionnais Bach il y a quelques instants et son clavier bien tempéré qui est l'Ancien Testament de la musique, hein, le nouveau étant les 32 sonates pour piano de Beethoven, et on va justement écouter un extrait de ce clavier bien tempéré et plus précisément un extrait du prélude numéro 1. Thank you. C'était à l'instant sur IDFM le prélude numéro 1 tiré du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, compositeur allemand né en 1685 et décédé en 1750. Dans cette œuvre, cet ensemble de ce grand recueil qui est le clavier bien tempéré, on retrouve aussi, après le prélude numéro 1, le prélude numéro 2, qui est également très célèbre et qui a été utilisé il y a quelques années dans le dessin animé Les Triplettes de Belleville. Maintenant, de l'opéra, et plus particulièrement un air tiré d'un opéra qui s'appelle Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck, qui était un compositeur de l'époque classique qui est malheureusement trop méconnu alors que c'était un véritable génie. Donc l'époque classique, c'est l'époque à laquelle appartenait Mozart. Il était plus âgé que Mozart, mais il appartenait bien donc à la même période. Parmi les opéras qu'il a écrits, il y a Orphée et Eurydice, cet opéra faisant partie des très très nombreux opéras et de très nombreuses œuvres, de façon plus globale, qui ont été inspirées par le mythe antique d'Orphée. Dans cet opéra, nous retrouvons notamment la scène où Orphée va rendre visite à Eurydice dans les enfers et Eurydice finit bien sûr par mourir. Dans les opéras, c'est en général le cas, il y a toujours au moins un personnage malheureusement qui meurt, c'est une des caractéristiques de ce genre lyrique, et le personnage d'Orphée chante après la disparition d'Eurydice « J'ai perdu mon Eurydice ». Cet opéra a aussi été écrit dans une version italienne. Là, c'est la version française que nous allons entendre ensemble, mais il faut savoir que le compositeur lui-même avait fait une version en français et une version en italien, sachant qu'en italien, c'est « Che farò senza Eurydice », ça veut dire « Qu'est-ce que je ferai sans Eurydice ?» alors qu'en français, les paroles sont « J'ai perdu mon Eurydice » et je vous propose d'écouter cet air. Le personnage d'Orphée chantait à l'instant « J'ai perdu mon Eurydice », un air tiré de Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck. Revenons maintenant en France et nous restons dans le domaine de l'opéra. Et on va écouter un extrait d'un opéra français, en l'occurrence le compositeur s'appelait Jules Massenet et nous allons écouter un extrait de son opéra Thaïs. Peut-être que ce nom Thaïs vous évoque un extrait très célèbre, et en l'occurrence, ce dernier, c'est la fameuse méditation de Thaïs, qui est un passage qui met le violon en avant, et c'est donc un passage orchestral qui se trouve au sein de l'action. Cela arrive parfois que dans les opéras, qui sont un genre lyrique, nous ayons au-delà de l'ouverture, au-delà des préludes, donc qui sont des petites parties orchestrales qui ouvrent chacun des actes, notamment au XIXe siècle, on a parfois donc l'orchestre qui prend la première place alors que tous les personnages sont sur scène, que l'action est en plein milieu. Donc, on a la méditation Thaïs que nous allions écouter. Nous avons aussi le fameux vol du Bourdon qui a été écrit par Rimsky-Korsakov. C'est au sein d'un de ses opéras aussi que l'on retrouve ce passage. Et tout à l'heure, nous écouterons aussi la fameuse danse des heures tirée de la Gioconda du compositeur italien du 19e siècle, Amilcare Ponchielli. Donc, il y a plusieurs passages dans des opéras où l'orchestre a vraiment la primeur. Et nous allons écouter donc cette méditation de Thaïs où le violon solo à la part belle. Des œuvres les plus célèbres du répertoire pour violon, en l'occurrence là c'est violon accompagné d'un orchestre, c'était à l'instant sur IDFM la méditation de Thaïs du compositeur français Jules Massenet. La danse des heures de la Gioconda que je stipulais il y a quelques instants, qui est un autre extrait purement orchestral que l'on retrouve au sein d'un opéra, et c'est ce morceau que nous allons écouter maintenant. Ponchielli est un compositeur du 19e siècle, italien. Il était sensiblement contemporain de Giuseppe Verdi, et comme lui, donc même pays, et comme lui, il s'est investi notamment dans le genre de l'opéra. Malheureusement, Verdi, vous le savez, a eu la primeur, lorsque l'histoire a fait son œuvre, a eu la primeur au-dessus de Amilcare Ponchielli, mais il faut savoir qu'il a composé donc des opéras, et notamment un qui s'appelle la Gioconda, donc la Joconde, et il y a au sein de cet opéra, au sein de cette œuvre, un passage qui s'appelle la Danse des heures. C'est un morceau qui vous évoquera peut-être quelques images lorsque vous l'entendrez, puisque c'est une des œuvres utilisées dans Fantasia, sortie par les studios Disney en 1940. Et c'est le passage où on voit des autruches, des éléphants ou encore des hippopotames danser. Donc c'est un passage extrêmement humoristique que l'on retrouve dans Fantasia, et à la fin de ce passage, lors d'un galop, une sorte de galop infernal, nous avons les crocodiles qui viennent jouer les troubles fêtes. Donc c'est un morceau qui est devenu célèbre, peut-être notamment grâce à Walt Disney. Écoutons donc cette danse des heures. Thank you. Vous êtes toujours dans l'émission Entre chien et loup sur l'antenne d'IDFM. Je suis Ishtar Mathieu-Séchez, musicologue conférencière. Et aujourd'hui, je vous partage de nouveaux tubes de la musique et de nouvelles informations autour de ses œuvres. Nous écoutions à l'instant La danse des heures, tirée de l'opéra La Gioconda de Ponchielli, compositeur italien du 19e siècle. Et La Gioconda est un opéra. Restons en Italie et dans le domaine de l'opéra, mais remontons un peu le temps puisque nous allons aller voir un compositeur qui a écrit la toute fin du 18e et début du 19e siècle, sachant qu'il a arrêté sa carrière de compositeur en 1830 pour se consacrer à son autre passion, la cuisine. J'ai bien évidemment nommé Gioacchino Rossini, qui a écrit plusieurs opéras, dont La Pivoleuse ou encore Le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville, vous savez qu'il s'agit de Figaro. Et lorsque je vous dis Figaro, je pense que vous pensez à un autre compositeur et à un autre opéra. Et oui, Mozart, lui, a écrit Les Noces de Figaro, mais c'était avant Rossini. Bien évidemment, les deux opéras sont liés puisqu'il s'agit des mêmes personnages. Simplement, l'histoire du Barbier de Séville se situe avant l'histoire des Noces de Figaro de Mozart. Donc, en quelque sorte, Rossini, en écrivant Le Barbier de Séville, a écrit un préquel, pour utiliser un terme cinématographique plutôt récent, aux Noces de Figaro de Mozart. De cet opéra, nous allons écouter un air de baryton, et en l'occurrence, la voix de baryton, c'est celle du personnage de Figaro, que ce soit dans l'opéra de Rossini, tout comme dans l'opéra de Mozart. La voix de baryton, c'est une voix grave, la voix grave de l'homme, sachant que encore plus grave, c'est la basse, mais c'est déjà bien, bien, bien plus grave, bien évidemment, donc, que la voix de ténor, qui est une des voix aiguës de l'homme. Écoutons donc le fameux passage Largo al factotum, tiré du Barbier de Séville de Rossini, pour voix de baryton.
Sono fatato della città.
Sur IDFM, vous venez d'entendre l'air tiré de l'opéra Le Barbier de Séville de Rossini, L'Argo al Factotum, et le personnage de Figaro dans cet opéra, tout comme dans l'opéra de Mozart Les Noces de Figaro, est un baryton. Allons maintenant aux États-Unis et au début du XXe siècle pour retrouver un compositeur qui est décédé la même année que Maurice Ravel en l'occurrence. Il s'agit de George Gershwin et il est décédé donc en 1937, tout comme Maurice Ravel, mais il était plus jeune que ce dernier puisqu'il était né en 1898. Ravel, lui, était né en 1875. George Gershwin est un véritable génie de la musique. Il est mort à moins de 39 ans. Et c'est vraiment, ça a été une très grosse perte pour la musique puisqu'il était un véritable génie. Il a écrit aussi bien de la musique pour Broadway et Hollywood, donc plutôt de la comédie musicale. Et il a aussi écrit de la musique dite classique, de la musique qui a eu sa place au sein de la salle de musique classique à New York, la salle qui s'appelle le Carnegie Hall. Et il a écrit notamment une œuvre qui s'appelle Porgy and Bess, qui a été créée en 1935. Et c'est un opéra, en l'occurrence, qu'il a écrit et non une comédie musicale, bien que la polémique soit toujours présente pour savoir si cette œuvre est une comédie musicale ou un opéra. Il semblerait que nous ayons tranché pour que ce soit un opéra, et ce pour une raison qui me semble plus que valable, même totalement valable, c'est le fait que dans Porgy and Bess, nous n'avons pas de passage parlé, c'est tout le temps chanté. Alors que dans la comédie musicale, nous avons des dialogues parlés entre les passages chantés. Mais cela a été l'objet d'une polémique, et c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais ça a été surtout le cas à l'époque de la création en 1935, puisque c'est une œuvre qui a été créée à Broadway, donc dans le temple de la comédie musicale, et les personnes qui étaient habituées à la comédie musicale ne se sont pas reconnues dans cette œuvre. Et les personnes qui étaient des amatrices d'opéra ne se sont pas non plus reconnues dans Porgy and Bess. Donc ça, c'est cela qui a créé une confusion et une petite donc polémique, je le disais il y a un instant, pour cette œuvre. Néanmoins, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit une comédie musicale ou un opéra, il reste que Porgy and Bess est une œuvre absolument magnifique que je vous recommande d'écouter ou de regarder en entier, parce que c'est une œuvre vraiment magnifique. Et cette œuvre, après l'ouverture, puisqu'il y a, comme dans un opéra, comme dans une comédie musicale, une partie orchestrale qui va être un petit, en général, un petit pot pourri des thèmes que l'on va entendre tout au long de l'œuvre. Donc après une ouverture instrumentale, on voit une première scène et c'est une jeune mère qui porte son jeune enfant qui souhaite, elle lui chante une berceuse pour qu'il s'endorme et cette berceuse, c'est Summertime. Summertime, aujourd'hui, est devenu un standard de jazz, un standard joué aussi bien uniquement en instrumental que chanté, donc par des chanteurs, que ce soit des hommes ou des femmes, mais à l'origine, c'est un personnage de femme, un personnage de soprano, et c'est ce morceau que je vous propose donc d'écouter tout de suite. Summertime sur l'antenne d'IDFM, un extrait tiré de Porgy and Bess, donc opéra de George Gershwin, son seul et unique opéra. Summertime est l'air qui ouvre l'opéra. Dans une précédente émission, j'avais mentionné le compositeur Aram Khachaturian et j'avais stipulé qu'il avait écrit deux ballets. Le ballet Spartacus et le ballet Gaïané, dont on ne connaît malheureusement que la fameuse danse du sabre, qui est un passage extrêmement rythmé où il y a beaucoup de percussions. Son autre ballet, donc, lui, il est connu dans son intégralité, c'est Spartacus, c'est l'histoire de la révolte des esclaves. Et dans ce ballet, on a un passage qui n'a rien à voir, en l'occurrence, avec la danse du sabre, où c'est extrêmement dynamique, comme je le disais, extrêmement percussif et rythmé. Ici, nous avons un passage qui s'appelle l'Adagio de Spartacus, donc Adagio. Nous l'avions vu dans une émission précédente, c'est un morceau qui est lent. C'est le nom d'un morceau, mais c'est aussi le nom du tempo. Nous avons des partitions, sur les partitions, quand ça doit être joué lentement, ça va être écrit Adagio dessus par les compositeurs. Et aussi, on a des morceaux qui s'appellent tel quel, tout comme l'Adagio de Samuel Barber que nous avons écouté dans une émission précédente, ou encore l'Adagio d'Albinoni que nous avons également écouté ensemble. On va donc écouter ensemble aujourd'hui l'adagio tiré de Spartacus, et plus précisément l'adagio de Phrygia et Spartacus, Phrygia étant l'épouse de Spartacus et elle est esclave tout comme lui. L'adagio de Spartacus tiré du ballet du même nom, donc Spartacus, du compositeur Aram Khachaturian. C'est donc le même compositeur que la fameuse danse du sabre que nous avons écoutée dans une émission précédente ensemble. C'est en Autriche que je vous propose de nous rendre maintenant, mais non pas pour aller retrouver Mozart, mais pour aller retrouver un compositeur bien plus proche de nous, Gustav Mahler. Il était né en 1860 et il est décédé en 1911. Il a écrit, comme Beethoven, 9 symphonies. Il est décédé alors qu'il avait commencé à faire quelques esquisses d'une 10e. Malheureusement, il a été victime de ce qu'on appelle la malédiction de la 9e. En l'occurrence, cette malédiction, c'est le constat que l'on a fait que après Beethoven, qui a écrit 9 symphonies dont la 9e est absolument magistrale, ce sont des œuvres qui ont marqué vraiment l'histoire de la musique, qui ont marqué les compositeurs. Et c'est un constat, donc, que par la suite, à l'époque romantique, plusieurs compositeurs sont décédés alors qu'ils avaient écrit seulement 9 symphonies. Dans sa 5e symphonie, nous retrouvons un mouvement qui s'appelle Adagietto. En l'occurrence, c'est un mouvement assez lent et c'est un morceau qui a été utilisé au cinéma et qui est devenu notamment célèbre grâce au film de Visconti, Mort à Venise. Et ce sont les cordes qui dominent beaucoup dans ce morceau très lent, qui est un petit peu dans la même ambiance que l'adagio de Samuel Barber que nous avons écouté déjà ensemble dans une précédente émission consacrée au tube de la musique. De Gustav Mahler sur IDFM dans l'émission Entre chien et loup, nous avons écouté à l'instant l'adagietto de la 5e symphonie donc de ce compositeur autrichien décédé en 1911. Ce sont des grands voyages et des grands mouvements que je vous propose dans ces émissions consacrées aux fondamentaux de la musique et plus particulièrement en ce moment au tube de la musique. Nous allons maintenant donc passer de l'Autriche à l'Angleterre et de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle au 17e siècle et plus spécifiquement donc à la période baroque. En Angleterre, à la période baroque, nous avons un grand compositeur qui s'appelait Henry Purcell, qui est considéré un petit peu comme le père de l'opéra anglais. Et il a écrit plusieurs opéras, dont Didon est né et Le roi Arthur. Donc vous voyez bien, ce sont les légendes et les mythes qui ont inspiré les opéras de Henry Purcell. Dans son opéra Le roi Arthur, King Arthur, on retrouve un passage qui s'appelle l'air du froid. Et plus spécifiquement, c'est le génie du froid qui chante cet air et vous allez entendre que la musique est extrêmement représentative de ce qui se passe dans l'histoire et de ce que représente le personnage. En effet, la musique nous évoque bien qu'il fait vraiment très froid. En l'occurrence, dans l'opéra, au centre de l'action, c'est le petit ange de l'amour, Cupidon, qui veut réveiller le génie du froid afin qu'il ne fasse plus froid, justement afin qu'il fasse meilleur, que le printemps revienne. Mais le génie du froid, lui ne se laisse pas faire et justement cet air, il demande à être laissé tranquille et être laissé tranquille à grelotter. À un moment donné, donc c'est un opéra en anglais, le génie du froid dit « let me freeze », laisse-moi être congelé, laisse-moi grelotter. Donc, lui, il ne veut absolument pas être interrompu. Et voici ce que donne cette air du froid. L'émission entre chien et loup sur IDFM Radio, nous venons d'entendre ensemble un extrait de L'air du froid tiré du roi Arthur, opéra écrit à l'époque baroque, donc au XVIIe siècle, par le compositeur anglais Henry Purcell. Aux côtés des ballets Le Lac des Cygnes et La Belle au Bois Dormant, le ballet Casse-Noisette est probablement un des plus connus du grand public. Et au sein de cette œuvre Casse-Noisette, on retrouve un passage qui s'appelle « La valse des fleurs » dans laquelle le corps joue la mélodie. Du ballet Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovski que nous venons d'entendre sur IDFM, et c'était plus particulièrement donc la valse des fleurs avec les cors qui jouent la mélodie. Et nous allons finir le programme du jour avec deux compositeurs du 19e siècle exactement contemporains, puisque tous les deux sont nés en 1813. L'un des deux, c'est Richard Wagner, et le deuxième, c'est un compositeur italien, lui aussi ayant œuvré et excellé dans le domaine de l'opéra, Giuseppe Verdi. Les deux hommes, nés tous les deux donc en 1813, ont tous les deux écrit donc plusieurs opéras, ont excellé, donc, comme je viens de le mentionner, dans le genre, mais dans deux directions totalement différentes. Et pour conclure le programme du jour, j'avais envie de vous partager deux extraits extrêmement célèbres, donc d'opéra, de ces deux compositeurs. Et là, nous allons écouter, en deuxième morceau, La Chevauchée des Valkyries. En fait, c'est une œuvre, une partie orchestrale qui est un prélude en fait du troisième acte de la Valkyrie. Donc dans la Valkyrie, on a trois actes et chacun des actes est précédé par un petit intermède uniquement instrumental qu'on appelle un prélude. Et là, donc, c'est le prélude du troisième acte que l'on en... C'est dans le prélude du troisième acte que nous retrouvons la fameuse chevauchée des Valkyries qu'on retrouve dans le film Apocalypse Now, dans la fameuse scène des hélicoptères. De Giuseppe Verdi, donc juste avant, nous allons écouter un extrait du Chœur des esclaves tiré de son opéra Nabucco. Et ce chœur a, dès le début, été synonyme de liberté et de revendication pour les Italiens qui étaient alors soumis à la domination de l'Empire d'Autriche. Sur l'antenne d'IDFM et pour conclure cette émission entre chien et loup, deux extraits d'opéra de, respectivement de Verdi et de Wagner. De Verdi, c'était le Chœur des esclaves tiré de son opéra Nabucco, et de Richard Wagner, c'était la fameuse chevauchée des Valkyries que l'on retrouve donc dans le film Apocalypse Now, dans la scène des hélicoptères. Nous arrivons déjà à la fin de ce nouveau numéro de Entre Chien et Loup consacré aux fondamentaux de la musique et plus particulièrement là au tube de la musique classique. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau programme et que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter toutes ces œuvres extrêmement célèbres. On se retrouve le 25 avril à la même heure à 18h, toujours sur IDFM Radio 98FM, IDFM, la première radio du Val d'Oise. Vous pouvez réécouter cette émission et d'autres émissions de la grille sur www.idfm98.fr, nous écouter partout dans le monde avec l'application IDFM Radio, et vous pouvez aussi nous suivre et nous contacter via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.
IDFM 98FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios
sur 98FM.